Après la signature du projet d'accord, une séquence exceptionnelle à l'Élysée a clôturé le sommet sur la Nouvelle-Calédonie qui se tenait depuis 10 jours en région parisienne. Les réactions sont très nombreuses après la fin des discussions à Bougival. La présidente de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, Premier ministre ou ministre des Outre-mer, tous saluent un accord qualifié d'historique pour la Calédonie. La fête nationale. Avant le défilé du 14 juillet à Nouméa, de nombreuses animations se déroulent ce dimanche déjà sur le territoire. Tour d'horizon des festivités dans ce journal. À Fort-et-Rimbal, la fête se déroulait en costume d'époque avec la deuxième édition du Calédonian Show qui a attiré plus de 1200 spectateurs. En métropole, avant le défilé de 7000 militaires sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre seront mobilisées tout le week-end pour éviter tout débordement, notamment dans la capitale. Le sport du football, Paris a un match de rentrée dans l'histoire. Le PSG défiera Chelsea demain en finale de la Coupe du Monde des clubs. Et sur le territoire, à Bouraï, trail et VTT étaient au menu du week-end organisé par Pro Evans, avec en point d'orgue la BCI des Vassans ce dimanche pour les amateurs de vélo tout-terrain. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. L'événement de ce week-end, c'est bien sûr la signature tôt hier matin à Bougival d'un accord pérenne sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Après 10 jours de négociations, l'État et les groupes politiques calédoniens ont apposé leur signature au bas d'un document qui inscrit la Nouvelle-Calédonie dans la France sous la forme d'un État sui generis. Retour sur le contenu de cet accord avec Elisabeth. Noir.
Un accord historique, c'est l'expression consacrée et elle est reprise par l'ensemble de la presse nationale. Un accord novateur aussi qui invente des dispositions inédites. Il inscrit la Nouvelle-Calédonie dans la France sous la forme d'un État sui generis et il crée une double nationalité française et calédonienne. Un accord pérenne enfin puisqu'il n'a pas de terme, pas de sortie. À l'inverse des accords précédents, il n'est pas prévu de référendum d'autodétermination. Désir les loyers, c'est le rassemblement parler d'un accord qui a requis de la part de tous des concessions significatives pour offrir à la Nouvelle-Calédonie un avenir de paix et de prospérité. Il souligne que cet accord instaure une nouvelle ère de stabilité en inscrivant de manière durable la Calédonie dans la République française et en permettant la réouverture du corps électoral à de nombreux Calédoniens et à leurs conjoints. Les loyalistes et le rassemblement se félicitent que ce choix respecte la volonté exprimée par les Calédoniens à 3 reprises de maintenir la Calédonie au sein de la République française. Il précise aussi que ce texte renforce la démocratie calédonienne par un rééquilibrage des sièges au Congrès au bénéfice de la province sud. Le Congrès comprendra désormais 56 élus au lieu de 54. Cet accord donne aussi aux provinces les leviers nécessaires à la définition de leur propre modèle de société au travers de l'exercice de la compétence fiscale. Les loyalistes et le rassemblement affirment que cet accord conforte le rôle de la France en Nouvelle-Calédonie en maintenant les compétences de sécurité, de justice, de défense et de monnaie à l'État. Et puis un consensus a également été trouvé sur le corps électoral. Pour les prochaines provinciales, le corps électoral sera un corps glissant sur 15 années et il sera aussi ouvert aux conjoints dans certaines circonstances. Ces provinciales qui seront reportées à mai ou juin 2026. Les élections suivantes seront organisées sur la base de la nationalité calédonienne qui est définie dans l'accord.
Cet accord est le résultat d'un consensus et chacun fait des concessions. Pour les loyalistes et le rassemblement les plus spectaculaires et celles qui surprennent le plus, ce sont l'appellation d'État de la Nouvelle-Calédonie et la création d'une double nationalité. Parmi les autres innovations qui vont dans le sens d'une plus grande autonomie, la mise en place d'une loi d'auto-organisation. Il est également prévu une possibilité de transfert dans certaines conditions assez drastiques d'une partie de certaines compétences régaliennes, mais c'est l'État qui aura le dernier mot. Le document qui a été signé comprend également un pacte de refondation économique. Pour mettre en œuvre ce projet d'accord, il va falloir dans un premier temps adopter une loi organique pour reporter les élections provinciales. Il faudra aussi réunir le Congrès de Versailles pour modifier le titre 13 de la Constitution qui concerne la Nouvelle-Calédonie. L'accord sera ensuite soumis à l'approbation des Calédoniens en février 2026, avant l'adoption en mars-avril 2026 de la loi organique spéciale et ce sera enfin en mai ou juin 2026 les premières élections provinciales du nouveau statut. Dans nos précédentes éditions, vous avez pu entendre les réactions des différents signataires de cet accord, mais l'événement de la nuit dernière pour nous, c'était la clôture du sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à l'Élysée sous la présidence d'Emmanuel Macron et Elisabeth Noir.
Une séquence un peu exceptionnelle qui s'est déroulée à l'Élysée où Emmanuel Macron avait déjà ouvert le 2 juillet ce sommet consacré à la Nouvelle-Calédonie. Il a tenu à le clôturer lui-même après avoir suivi de près les négociations Et il l'a fait en présence de tous les négociateurs, mais aussi des plus hauts représentants de l'État, le Premier ministre François Bayrou, le président du Sénat Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, et bien sûr le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Emmanuel Macron qui a prononcé quelques mots avant de passer la parole aux uns et aux autres, en commençant par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga.
Chacun ici autour de la table a décidé de prendre ses responsabilités pour la Nouvelle-Calédonie. Sur les traces et les pas des anciens, je suis assis à côté d'Emmanuel. Je vais dire que nos papas, ils étaient dedans. Il y a Brieux qui est ici. C'est un peu familial. Excusez-moi de mon propos, peut-être. C'est un peu familial, le truc, monsieur le président. Mais ces responsabilités-là, elles nous engagent au-delà des différentes fonctions qu'on porte.
C'est ensuite la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Velma Falaeo, qui s'est exprimée sur cet accord.
Trouver un compromis nécessite de renoncer à soi-même pour retrouver le « nous ». Et je suis fière de ce que nous avons pu réaliser, chers collègues calédoniens, puisque nous avons prouvé ici que nous étions capables, ensemble, de relever notre pays, la Nouvelle-Calédonie que nous aimons tant. Et cela n'était facile pour personne. Et c'est surtout un pari sur la confiance. La confiance entre vous et nous, et la confiance entre nous-mêmes et les nôtres.
Le président de la République a ensuite passé la parole au député Nicolas Metzor, puis au député Emmanuel Tchibaou qui conduisait la délégation FLNKS et qui a expliqué pourquoi il était venu autour de la table.
Je pense que le rendez-vous d'aujourd'hui, si on dit que c'est historique, c'est aussi parce que c'est une étape qui, pour nous, peuple kanak, nous permet d'envisager des perspectives dans lesquelles, ensemble, on chemine vers une trajectoire que l'on choisira ensemble et qui fait qu'en choisissant ce chemin qui est difficile, qui est nouveau, qui est innovant, pour reprendre les propos de M. Larcher, c'est aussi se mettre à l'épreuve de la critique. On a dit ce matin, dès qu'on sort de la table, on va passer le pas de la porte et on va se faire insulter, menacer, parce que nous avons choisi un chemin différent qui n'était et peut-être pas le maintien de manière indéterminée, indéfinie dans la France, qui n'était peut-être pas une solution immédiate pour accéder à la pleine souveraineté, mais qui était la nécessaire convergence d'intérêts pour dire combien les uns et les autres on est attachés à ce territoire qui fait notre fondement.
Prise de parole ensuite de Sonia Backès, de Virginie Ruffnac, de Philippe Gomez, de Vaïma Mouliava et de Pascal Vittori, avant la déclaration du ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Pour lui, la signature de l'accord est un événement historique et il parle de compromis intelligent.
C'est un compromis intelligent. Tout le monde a fait un pas vers l'autre. Ça n'aurait pas été possible sans la responsabilité des forces politiques calédoniennes. Moi, je suis très fier, comme ministre, d'avoir accompagné ce mouvement. C'est de nouveau, la Calédonie se dote d'un statut particulier, sui generis, comme on dit, c'est-à-dire unique. Mais c'est important que la Calédonie rayonne de nouveau dans le Pacifique, parce que c'est une manière de faire rayonner la France. Tout le monde est français, même s'il y a cette nationalité calédonienne. L'État assume des responsabilités régaliennes majeures, même s'il peut y avoir des évolutions à terme. C'est une construction intelligente qui rend possible maintenant l'espoir, celui de reconstruire la Nouvelle-Calédonie qui a été détruite par les émeutes de l'année dernière. Et sans accord politique, rien n'était possible et la Calédonie était sombrée dans le chaos et dans la confrontation. Avec cet accord, les bases sont là, mais elles sont très exigeantes pour une reconstruction économique, sociale, je pense notamment à la question de la jeunesse, mais aussi pour apaiser. La réconciliation politique doit permettre une grande réconciliation dans une société qui est inquiète et divisée.
Le Premier ministre François Bayrou a eu pour sa part des mots de gratitude pour ceux qui ont permis cette issue et il a aussi exprimé son admiration.
Ce que vous avez fait, c'est très courageux et très intelligent. Que ça n'était pas simple de concilier dans une seule phrase un État de Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble national inscrit dans la Constitution de la République. C'était très intelligent de penser les deux nationalités intimement liées. Et qu'on ne puisse pas perdre l'une sans perdre l'autre. C'était très profond. Et sortir de l'hypothèque des référendums, qui au fond était un mécanisme d'antagonisation croissante, pour entrer dans une solution stable, qui donc invite à travailler ensemble. C'était très intelligent.
C'est ensuite le président du Sénat, Gérard Larcher, il a salué lui aussi cet accord et le courage qu'il fallait pour le signer, avant d'évoquer quel allait être le rôle du Parlement.
Il restera à traduire cet accord pour nous, en termes juridiques, d'abord dans une modification constitutionnelle, puis après avoir consulté les Calédoniens dans une loi organique. Nous serons attentifs, comme constituant, et je m'adresse à mes collègues parlementaires aussi, comme législateur, au sens des mots, pour éviter toute interprétation contraire ou génératrice de division. Oui, comme l'a dit le président du gouvernement, il nous faut une pédagogie de l'accord qui soit développée pour qu'en Nouvelle-Calédonie, l'ensemble de nos compatriotes se l'approprie. Il faudra aussi, vous êtes responsable pour certains, de formations politiques, y compris ici, nous expliquions.
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a exprimé elle aussi toute son admiration et aussi son émotion. Et elle a affirmé que le droit doit suivre la volonté des hommes.
Nous serons là avec le président du Sénat pour faire en sorte que nous puissions aboutir dans les mois qui viennent à une révision constitutionnelle. J'ai toujours considéré que si le droit était important, le droit devait suivre la volonté des hommes et que la volonté des hommes et des femmes ne devait pas se soumettre au droit. Et donc la Constitution sera là, le droit sera là, mais pour accompagner ce que vous construisez ensemble pour le bien commun de la Nouvelle-Calédonie et pour le bien commun de ses habitants.
Et c'est le président de la République qui a tenu à conclure lui-même ce sommet avec une nouvelle déclaration de la part d'Emmanuel Macron qui a d'abord salué le respect et même au-delà de la feuille de route qu'il avait fixée.
Je vous avais dit la semaine dernière qu'il nous fallait tirer les conclusions des trois référendums, pacifier les choses après ce qui s'était passé il y a un an et trouver un chemin de stabilité qui permette de tirer les conséquences aussi de ce que nous avions vécu, c'est-à-dire à nouveau éviter l'espèce de diffraction que conduit immanquablement un nouveau référendum, qu'il soit dans 15, 20, 25 ans, et aborder avec courage les sujets économiques et financiers. Je considère que les travaux que vous avez menés pendant 10 jours, le chemin que vous avez vous-même repris, vous l'avez rappelé en prenant vos responsabilités, correspond à ce qui était notre volonté commune.
Emmanuel Macron qui a ensuite évoqué l'aspect économique de l'accord en commençant par la filière nickel.
L'avenir de la filière nickel et la nouvelle doctrine qui a été consacrée par la journée de travail sur ce sujet et ce qu'il y a dans l'accord est pour moi une avancée notable. C'est bâtir ensemble une filière nickel rentable qui permette à la Nouvelle-Calédonie de financer son développement avec évidemment des investissements qui seront à faire, en particulier, on le sait, sur les infrastructures et l'énergie, mais qui s'inscrivent aussi dans des choix de responsabilité pour que cette filière puisse trouver sa rentabilité et son avenir.
Et le chef de l'État a enfin abordé le cadre institutionnel en disant aux Calédoniens: vous avez inventé un chemin.
Vous avez inventé un chemin. Et au fond, vous avez beaucoup mieux d'ailleurs que nous ne l'esquissions il y a 10 jours ici, permis de donner un cadre d'avenir institutionnel pérenne et évolutif, pour reprendre la formule, qui évite à nouveau la fracture. Et au fond, après 2 accords et 3 référendums, la Nouvelle-Calédonie, par ce que vous avez signé ce matin, ouvre une nouvelle page de son avenir dans un lien serein avec la France. La formule qui en résulte, ça a été rappelé par le ministre d'État, est une innovation complète, à la hauteur de la complexité de votre territoire. Elle est respectueuse des Calédoniens, de ceux d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et respectueuse de la République. Et cette formule, celle d'un État de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'ensemble national, avec cette loi fondamentale inscrite dans la Constitution. Et elle concilie l'aspiration à l'autodétermination et le lien avec la France d'une manière inédite.
Vous avez fait de la politique et vous n'avez pas cédé à la facilité du temps, a conclu Emmanuel Macron, en estimant que cela force le respect. Autour de la table aussi, plusieurs représentants de l'État qui connaissent bien la Calédonie et qui ont été associés très étroitement aux négociations, comme l'ancien haut-commissaire Patrice Faure, devenu directeur de cabinet du président de la République, le préfet Rémi Basti, ou encore Éric Thiers, le conseiller spécial du Premier ministre, ou Emmanuel Moulin, désormais secrétaire général de l'Élysée.
Merci Elisabeth Noir. Un accord qualifié d'historique que nous allons continuer à vous présenter dans les prochains jours. Il y aura aussi encore de nombreuses réactions et de nombreux commentaires. Demain matin à 7h30, vous pourrez suivre l'interview que nous a accordée Sonia Backès. La chef de file des loyalistes reviendra en détail sur le contenu de ce projet d'accord signé donc hier à Bougival. Il est 17h passé de 59 minutes. On se retrouve après une courte pause publicitaire pour évoquer cette fois les festivités du 14 juillet. À tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Michael Juneski.
Et la fête nationale qui est l'occasion de nombreuses célébrations dès ce soir dans l'agglomération du Grand Nouméa, notamment au centre-ville où c'est une traditionnelle retraite au flambeau qui est organisée par la ville de Nouméa. Nous sommes en direct avec l'une des responsables de l'organisation, Aurélie Oduro, chef du service animation et rayonnement de la ville de Nouméa. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct donc sur nos ondes. Expliquez-nous un petit peu, on est dans la dernière ligne droite avant le début donc de cette retraite au flambeau, cet événement proposé ce soir pour les Nouméens.
Exactement, ben là on a nos 6000 lampions qui sont prêts à distribuer. On a déjà du public qui est en attente et on commencera la distribution du coup à 18h30. Et le départ du défilé se fera donc à 19h.
Voilà, si les gens sont déjà au rendez-vous, commencent déjà de converger vers le site du départ de cette retraite au flambeau, on l'imagine. Il y avait de l'enthousiasme, il y avait une envie de venir participer ce soir.
Oui, on a déjà vu des gens qui étaient là déjà dès 5h30. Même à 5h, on a commencé à voir les premiers. Et là, petit à petit, ça se remplit de foule. Donc, je pense que les gens attendent le moment avec impatience.
On va bien rappeler comment ça se déroulera le parcours, hein, notamment pour tous ceux qui participeront, ceux qui veulent vous rejoindre à la dernière minute.
Alors, on part du monument américain et on descend en fait l'avenue Foch. Donc, on descend en ligne droite, on passe devant la bibliothèque Bernheim, on continue, on arrive sur la place des Cocotiers au niveau du kiosque à musique.
Et alors, voilà. On le suppose, il y aura d'autres animations proposées en plus, hein, évidemment, de ce magnifique spectacle qu'il sera donc cette marche, hein, jusqu'au centre-ville.
Oui, on a un concert, donc on a le bal qui commence. Les musiciens étaient tellement enjoués qu'ils ont peut-être déjà commencé à jouer, ils voulaient commencer à 18h. Bon voilà, on a le bal sur la place des Cocotiers qui normalement est à partir de 19h. Et on a aussi des manèges et des châteaux gonflables pour les enfants qui se situent du coup au kiosque à musique. Et le bal, lui, est sur la place de la Marne. Et si on a un petit creux, il y a tout ce qu'il faut aussi sur place avec des snackings ambulants.
Alors, ces festivités du 14 juillet, selon vous, est-ce qu'elles trouvent un écho particulier avec l'actualité qui nous a directement concernés à Paris? J'entends par là l'état d'esprit des participants qui ont fait le déplacement ce soir. Il y a un bel enthousiasme?
Alors, je ne peux pas parler pour les participants. Je pense que c'est quand même un moment qui tous les gens viennent chaque année. Hein. C'est un moment familial et puis c'est quand même très joli à voir toutes ces lumières qui descendent dans la rue. Donc peut-être pour certains, oui, mais je ne veux pas parler pour tout.
Très bien. Et un dernier message important également, pour les automobilistes. On le rappelle, hein, évidemment, durant cet événement, il y aura des restrictions mises en place.
Oui, donc les coupures de route se feront à partir de 18h30, donc à partir du carrefour en haut du lycée La Pérouse. Et elles seront réouvertes, les routes, en fait, dès que le cortège est passé.
Eh bien, le message est bien passé. Et puis, on espère le meilleur pour ces festivités qui vont donc se poursuivre, hein, jusqu'aux environs de 22h. C'est bien ça?
Exactement, oui.
Merci encore, Aurélie Oduro, d'avoir été en direct avec nous ce soir.
Merci, bonne soirée à tous et on vous attend.
Voilà, le message est bien passé avec Aurélie Oduro, donc chef du service animation et rayonnement de la ville de Nouméa. On le rappelle donc, à l'issue de cette retraite au flambeau, le bal populaire prévu sur la place des Cocotiers se poursuivra jusqu'à 22h. Ces festivités du 14 juillet sont donc marquées par les différentes retraites au flambeau dans plusieurs communes du Grand Nouméa. À Païta, il était également possible aujourd'hui de fabriquer son propre lampion, Léana Colombo.
Et oui, c'est avec un sentiment de fierté supplémentaires qu'ils participeront au défilé ce soir, car quoi de mieux que de participer aux festivités avec sa propre création. Ils sont plusieurs dizaines, parents et enfants, à avoir participé à l'atelier proposé par la mairie de Païta à l'Arène du Sud, et tout le monde est reparti comblé.
On fabrique des lampions avec des feuilles simples. Nous faisons aussi des fleurs avec des papillons, des roses.
Et alors l'atelier, qu'est-ce que t'en penses?
Personnellement, j'aime bien. Là, je suis en train de faire un bouquet bleu, blanc, rouge.
Nous avons fabriqué un lampion avec ma fille. C'est une activité proposée pour tous les âges, à tous les niveaux. C'était bien sympathique. Toute la semaine, elle nous a rappelé qu'il fallait aller à l'Arène du Sud pour pouvoir les fabriquer, parce qu'il y avait plein de choses à faire, et notamment cette petite fabrication de lampions. Donc elle s'est amusée, oui, je pense que oui.
En fait, l'atelier, on a fait des petits lampions avec des fleurs, avec des éventails. Il y a toutes sortes de couleurs.
Et tu as aimé ?
Oui, parce qu'elles sont vraiment très belles, donc j'aime ça vraiment.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir son propre petit lampion ?
Oh, ça fait plaisir, hein, surtout pour les gosses. Ils sont contents.
Vous avez hâte de l'allumer, j'imagine.
Oui, on a hâte. On attend l'heure pour pouvoir inaugurer ça.
La retraite au flambeau qui a débuté il y a quelques minutes à 18h, je le rappelle, sur la commune de Païta.
Et puis au Mont d'Or, les festivités du 14 juillet sont couplées comme chaque année à la fête du sport et des associations qui se déroulera demain de 8h à 16h au complexe Boeva de Boulari. Mais des animations sont déjà proposées ce soir pour les habitants de Ploume au parc Paul Bloch jusqu'à 20h. À Bouloupari, un festival de la gastronomie était proposé sur la place de la mairie à la mi-journée. Et ce soir, c'est le bal des pompiers qui se déroule à la caserne à Dimbéa. Les célébrations auront lieu demain à partir de 17h à la halle Michel Castex. Un temps fort de la fête nationale, ce sera demain le traditionnel défilé militaire du 14 juillet. Il débutera à 9h, avenue de la Victoire Henri Lafleur. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie mobilisent pour l'occasion 500 personnels des armées de terre, de l'air, de la marine. Les troupes avaient déjà pu effectuer une répétition mercredi soir. Le colonel Puchois, chef d'état-major interarmée des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Ça permet de rassembler l'ensemble des troupes, de faire les marquages pour s'assurer que les espacements sont bien respectés, que tout le monde ne sera pas surpris par les ordres qui seront donnés le jour J. Et puis après, donc un entraînement au défilé, s'assurer que tout le monde défilera le plus fier et le plus proprement possible pour cette cérémonie. Alors l'ensemble des corps sont représentés, des forces armées, que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, toutes les corps de soutien, les directions et les services, la gendarmerie, la police, le RSMA, les douanes et les pompiers. Mais on innove chaque cérémonie. Donc là, entre la cérémonie proprement dite protocolaire avec des remises de médailles et le temps de mise en place pour le défilé, il y aura des mises à l'honneur de la jeunesse, de tous ceux qui ont participé par différentes façons, que ce soit des réservistes citoyens, des classes de défense qui seront mises à l'honneur. Donc on aura ce petit espace au milieu de cette belle cérémonie.
Et notez que des restrictions de circulation seront encore mises en place demain matin au centre-ville, le temps du défilé. Et après ce défilé, notez qu'un forum des forces de sécurité se tiendra sur les quais ferry de 10h à 15h, avec notamment le bâtiment de soutien outre-mer d'Entrecasteaux, ouvert au public de 10h30 à 15h30. Une occasion d'échanger avec des professionnels. La fête nationale, qui est également l'occasion de cérémonies solennelles et à Païta, comme le veut la tradition, c'est ce 13 juillet que se déroulait une cérémonie au Monument aux Morts, Léana Colombo.
Une commémoration où se mêlaient, comme à l'accoutumée, anciennes et nouvelles générations, représentées d'un côté par les porte-drapeaux et de l'autre les élèves des classes défense. Cette année, c'est le collège Sainte-Marie de Païta qui a été choisi pour participer aux célébrations. Une cérémonie qu'ils ont suivie avec grand intérêt.
C'est une commémoration aux morts du 14 juillet. Je suis présente aujourd'hui avec ma classe car nous venons rendre hommage, comme tous ceux qui sont ici. C'est très impressionnant et intéressant.
C'était bien intéressant, c'était chouette, très instructif aussi.
C'était beau, c'était intéressant. J'en avais déjà appris, mais là j'en apprends encore.
Je trouve que c'était très impressionnant. Et ça, c'est un souvenir qui va rester avec moi parce que c'est une chose qui arrive une fois dans la vie, je veux dire. J'apprends beaucoup de choses. C'est très instructif.
Dans le rang protocolaire, aux côtés du maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo, que vous avez pu entendre dans notre édition ce midi, on retrouvait le vice-président de l'Amicale des anciens combattants de Païta, le lieutenant-colonel Alexis Marolle, représentant le commandant supérieur des FANC, le nouveau commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, le général Aouchin, et Jean-Gabriel Favreau, élu à la province sud.
Demain, à Moindou, un dépôt de gerbes est prévu à 8h au monument aux morts de la commune. Cérémonie prévue également à 8h à Koumac. À Farino, le dépôt de gerbe aura lieu à 9h et sera suivi d'un pot de l'amitié. 9h, c'est aussi l'heure de la cérémonie prévue au monument aux morts de Houé, à Lifou. Le dépôt de gerbe de la commune de Bouraille aura lieu à 10h en présence du RSMA, de la gendarmerie ou encore de la brigade des sapeurs-pompiers de Bouraille ainsi que d'une classe de défense et sécurité du collège de Bouraille. À Bouloupari, le dépôt de gerbe aura lieu à 11h30 au monument aux morts. Enfin, la mairie de la Foix organise son dépôt de gerbe à 16h également au monument aux morts de la commune. Demain, lundi 14 juillet, je vous rappelle que ce sera un jour férié. Votre grille des programmes sera par conséquent adaptée sur RRB. Vous retrouverez Info Matin, votre grand journal du matin, à partir de 7h au lieu de 6h30. Info Mag sera présenté à midi au lieu de 11h30. Info Soir reste programmé à 17h45. Et enfin, c'est mardi que vous retrouverez la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Et un rendez-vous d'antenne à la fin de ce journal. Ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Fabrice Dufresne, le directeur de l'UOM, qui était l'invité d'Elisabeth Noir. Il a commenté le rapport 2024 de l'Institut d'Outre-mer qui parle d'un choc d'une ampleur sans précédent pour l'économie calédonienne lors de la crise insurrectionnelle. Une interview qui sera donc rediffusée dans son intégralité. Vous pouvez également la retrouver en podcast sur notre site internet www.rrb.nc.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Bouloupari, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Ce dimanche, à Moindou, plus de 1200 visiteurs ont assisté au Calédonian Show à Fort-Terrain-Bas. Les bénévoles de l'association Marguerite étaient présents pour faire découvrir ou redécouvrir le site dans une ambiance conviviale et familiale. Les visiteurs ont pu profiter d'animations ainsi que d'un spectacle historique. Bilan de la journée avec Ségolène Lenormand, elle est directrice de l'association Marguerite et du Fort-Terrain-Bas.
Très bon bilan, on est vraiment très satisfaits, on a vraiment eu le public, les visiteurs ont été très présents, ont répondu à l'appel du Calédonian Show deuxième édition, donc on a eu à peu près 1200 personnes sur place, donc voilà, on a notre maximum pour cet événement en tout cas, donc on est très contents, le soleil était au rendez-vous, tous les bénévoles présents, costumés pour le spectacle. Donc voilà, vraiment un succès, on est vraiment ravis. Les activités ont beaucoup plu, que ce soit les balades en voiture, balades à cheval, les expositions et puis le spectacle. Ça plaît toujours, mais avec des nouveaux tableaux et vraiment une belle réussite. On est vraiment satisfaits de cette deuxième édition et donc ça promet pour la prochaine une belle réussite.
Je rappelle que plus d'une centaine de figurants étaient impliqués dans le spectacle historique sur le site de Fort-Terrain-Bas pour la deuxième édition de ce Calédonian Show. Il est 18h passé de 12 minutes. Le défilé militaire sur les Champs-Élysées est prévu demain soir, mais tout au long du week-end, les forces de l'ordre sont mobilisées en métropole. On en parle après la pub.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Mickaël Juneski.
En métropole, si le 14 juillet est synonyme de grande fête dans la capitale avec un feu d'artifice sans oublier le défilé militaire sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre seront particulièrement vigilantes pour assurer la sécurité avec notamment 12 000 policiers et gendarmes déployés dans Paris. Une interdiction de se rassembler sur les Champs-Élysées alors que le week-end sera aussi marqué par la finale de la Coupe du Monde des clubs et les fans de foot qui suivront le match de Paris contre Chelsea. Le ministre de l'Intérieur a promis un important dispositif sécuritaire, Bruno Retailleau.
Les policiers, les gendarmes ont une consigne, c'est de ne rien tolérer. Voilà, c'est d'être très agile et de faire en sorte que ceux qui viennent pour utiliser une fois de plus ce prétexte pour déployer leur violence, ceux que j'ai appelés les barbares, ils en soient empêchés.
Et dès demain soir pour nous, plus de 7000 militaires, 250 chars, 200 chevaux, 34 hélicoptères et 68 avions, dont ceux de la Patrouille de France, paraderont dans la capitale. Ce sera à partir de 19h pour nous. Les équipages à bord des hélicoptères ont notamment suivi des entraînements spéciaux. Reportage d'Antoine Bienveau d'Europe 1.
À 200 mètres au-dessus du sol, alors que se profilent à l'horizon les tours du quartier de la Défense, le capitaine Marc et son équipe sont particulièrement concentrés. Pour réussir leur défilé, les militaires, casque de pilote sur la tête, ne doivent rien laisser au hasard.
On a les avions qui seront avant nous, on a d'autres hélicos qui seront après nous. Il y a pas mal de communication radio pour bien se caler et surtout le respect des horaires. Parce que dès qu'il y en a un qui est en retard, tout est décalé. Nous, on a des timings à la seconde, du début à la fin.
Et pour être sûr de respecter ces fameux timings, le protocole impose au lieutenant Noéry, pilote de l'appareil, quelques minutes d'attente dans les airs aux portes de la capitale.
En fait, on peut pas décoller et arriver à l'heure H pile. Donc en fait, on fait des tours d'attente à l'extérieur de Paris jusqu'à nous caler à la bonne horaire et ensuite, une fois
fois qu'on a la bonne horaire, on part.
Le défi est de taille car 21 autres hélicoptères voleront autour d'eux pendant le défilé. Alors pour éviter tout accident, le caporal-chef d'Orient surveille les abords de l'appareil depuis les portes latérales grandes ouvertes.
C'est une machine qui est assez longue. Quand on regarde au niveau du pilote, c'est vrai qu'ils ont une vision qui est assez faible. Du coup, pendant la répétition, ça va être de faire attention aux abords de la machine pour aider le pilote si jamais on se rapproche peut-être trop d'une autre machine.
Dernier paramètre à prendre en compte, la vitesse, environ 160 km/h à ne pas dépasser pour conserver l'harmonie du défilé.
Et 300 les actions en limitation.
Le reportage d'Antoine Bienveau d'Europe 1. Notez que l'Indonésie sera l'invité d'honneur cette année avec le président indonésien qui sera présent pour assister au défilé. Et Emmanuel Macron s'adressera quant à lui dès demain matin à ses troupes pour le traditionnel discours aux armées. En bref, la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur. La liste a été officialisée et parmi les personnalités connues qui y figurent, on citera notamment Bernadette Chirac, l'écrivain Marc Lévy, la comédienne Léa Drucker ou encore Gisèle Pélicaume. Côté calédonien, Jean-Pierre Guimard, collaborateur direct de Jacques Lafleur pendant près de 20 ans, ancien adjoint au maire de Nouméa, a été distingué de la Légion d'honneur au grade de chevalier. Il fait partie des 497 chevaliers, 68 officiers, 18 commandeurs, 4 grand officier et 2 grands croix décorés lors de cette promotion civile. En bref, à l'international, de nouvelles menaces d'augmentation des droits de douane agitées par Donald Trump. Mesure à hauteur de 30% que le président américain annonce vouloir mettre en place contre le Mexique, mais aussi l'Union européenne. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa très vive désapprobation. L'actualité dans le Pacifique, en Australie-Occidentale, une touriste allemande de 26 ans se remet de ses émotions à l'hôpital de Perth après avoir erré dans le Grand Bush pendant près de 2 semaines. Le récit de notre correspondant Jean-Pierre Zajac.
Carolina Wilga, 26 ans, avait été vue pour la dernière fois le 29 juin alors qu'elle faisait les pleins de provisions et de carburant à Beacon, une petite localité située à environ 330 km au nord de Perth. La touriste avait alors l'intention de visiter l'une des réserves naturelles de la région à bord de son camping-car. Celui-ci s'est toutefois embourbé dans un endroit accidenté où elle s'était aventurée hors piste. Cédant à la panique, la jeune femme a alors abandonné son véhicule et a divagué pendant 11 jours avant d'être retrouvée par une fermière de la région. Elle avait été dévorée par les moucherons, elle était pieds nus, affamée, assoiffée, transie et affaiblie, a-t-elle dit aux policiers qui s'étaient lancés à la recherche de la malheureuse, laquelle a été transférée par hélicoptère sur l'hôpital de Perth, où elle se remet depuis de ses émotions. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 18h passées de 17 minutes, le PSG a rendez-vous avec son histoire en finale de la Coupe du Monde des clubs. Tout le sport après la pub.
RRB, la pub.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La fin de votre journal Le Sport avec Mickaël Juneski.
Le football avec Paris qui affrontera Chelsea pour tenter de remporter la Coupe du Monde des clubs demain matin. Une première édition de ce mondial nouveau format voulu par la FIFA qui donne au PSG l'opportunité de rentrer dans l'histoire sur les terrains des États-Unis. Reportage de Christopher Filoc d'Europe 1.
Ce que vous entendez, ce sont les supporters parisiens hier soir à Times Square, déjà prêts à donner de la voix pour cette finale. La cerise sur le gâteau d'une incroyable saison parisienne, comme l'explique Beraldo, le défenseur du PSG.
Il nous reste ce match pour bien terminer notre saison et remporter toutes les compétitions auxquelles nous avons participé.
Mais avant de remporter toutes les compétitions, Paris doit battre le club londonien Chelsea, qui a bénéficié d'un tirage au sort plus favorable pour se hisser jusqu'en finale. Mais attention, pas question pour Désiré Doué de tomber dans l'excès de confiance.
On joue contre une belle équipe en face de Chelsea qui ont beaucoup de qualité. Donc il faudra aborder le match de la même manière qu'on a abordé contre le Real de Madrid et gagner dimanche.
Un statut d'outsider qui convient parfaitement à Levi Colwill, le défenseur de Chelsea.
Si tout le monde pense qu'on va perdre,
perdre, on n'a rien à perdre. On doit jouer notre football, être confiant, espérons surprendre tout le monde.
Une victoire porterait à 5 le nombre de trophées remportés cette année par le PSG du jamais vu pour un club français. Un cinquième titre pour s'installer à jamais parmi les plus grands.
Christopher Filloc pour Europe 1 finale, la PSG-Chelsea à suivre demain matin à 16h, heure de Nouméa. Du foot au féminin aussi avec le troisième match des Françaises dans le groupe D du championnat d'Europe. Demain matin, les Bleus affronteront également à partir de 6h les Néerlandaises pour la tête de leur groupe. Et en tennis, un rendez-vous au sommet, la finale de Wimbledon. Elle opposera, comme à Roland-Garros, le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, à l'Espagnol Carlos Alcaraz. On passe au cyclisme.
Air Calin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Le Tour de France, ce soir, la 9e étape conduira les coureurs jusqu'à Châteauroux. Au classement général, Tadej Pogacar roule toujours avec le maillot jaune devant Remco Evenepoel à 54 secondes de retard du leader. Le Français Kevin Vauclin est en 3e position. Chez les tricolores, on reconnaît que l'épreuve est difficile, à l'image d'Arnaud Démare qui n'a pas encore pu s'illustrer depuis le début.
Physiquement, j'arrive pas à suivre. Et du coup, c'est ce qui me manque. Il faudra un meilleur placement. C'est ça qui me manque. Ouais.
Le peloton qui attaquera demain la 2e semaine sur la grande boucle. Et puis en MotoGP, le Grand Prix d'Allemagne, c'est ce soir. Marc Marquez a déjà remporté la Sprint Race. Fabio Quartararo s'est classé 3e. Johann Zarco, lui, avait réussi à signer le 2e temps lors des qualifications, alors que Marc Marquez avait également signé la pole position. Course à suivre ce soir à partir de 23h.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Bouraille, c'est le 99.
Le sport en Calédonie, double événement organisé à Bouraille ce week-end, le Trek des Érythrines et la BCI dévassant pour les vététistes. Des centaines de participants réunis durant 2 jours. Des compétitions mises en place par Pro Events. Sur l'épreuve phare, la BCI dévassant, c'est Ryan Lachny qui s'est imposé au terme des 40 km devant Alix Dudouay et Romain Lègle. Victoire chez les féminines de Caroline Favier devant Jessica Belenguez et Sabrina Lelièvre. Le rendez-vous a tenu ses promesses, selon Julie Prunet de Pro Events.
On est très contents. On a du soleil par rapport à hier où on a fait le trek Érythrine, où là on était sous la pluie. Le terrain est quand même très très gras, très bouilleux, mais les gens sont contents des parcours. Ils ont trouvé des parcours très très beaux, très techniques, donc ils cherchent vraiment à se challenger, on le voit, et ils sont vraiment ravis des parcours. Ryan, le 40, nous a terminé en 2h05, suivi de Dudouay Alix en 2h08, et on a l'Aigle Romain en 3e position sur du 2h13. Belle bagarre pour la victoire, Ryan n'a rien lâché, donc on est très content pour lui, et puis pour Alix aussi et Romain. Voilà. On est content, c'est déjà une belle réussite, on aurait aimé avoir un petit peu plus de monde, mais bon, je pense que les personnes qui sont avec nous sont très contentes, donc on les remercie.
Julie Prunet de l'organisation pour Pro Events. Notez que sur le trek des Érythrines hier soir, c'est Antoine Barrien qui l'a emporté sur le parcours de 12 km devant Jérémy Giraudet et Virgile Petit. Ludivine Duquesne a fini meilleure féminine. Ce dimanche, toujours à Bouraille, en motocross, on disputait la première manche du championnat de course sur Prairie. Une cinquantaine de pilotes étaient en lice. Et en football, la suite de la 8e journée de Super League avec les derniers résultats. Nejeu s'est incliné face à Magenta 1-0 aujourd'hui, tandis que Tigasport a battu Horizon Pato 2-1. Grâce à leurs succès respectifs, Magenta et Tiga sont assurés de terminer leader de leur groupe. 18h22, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo avec vous, Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera dégagé, offrant une nuit étoilée. Toutefois, des nuages bas pourraient circuler sur le sud-ouest, l'extrême sud et marée avec des risques de faibles averses. Le vent soufflant initialement de sud à 15-20 nœuds devrait progressivement diminuer, oscillant entre 10 et 15 nœuds en fin de nuit et de 5 à 10 nœuds sur l'est. Les températures minimales devraient connaître une chute significative, variant entre 13 et 18 degrés en général et descendant jusqu'à 10 degrés dans l'intérieur des terres et sur les îles. Lundi matin, le ciel sera largement ensoleillé avec quelques nuages inoffensifs qui remonteront sur le sud-ouest. Le vent orienté sud à sud-est s'adoucira, soufflant à 5 à 10 nœuds. Il restera cependant plus soutenu sur l'extrême nord où il soufflera encore entre 10 et 15 nœuds en matinée.